Bonjour Aline Dieudonné.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin.
Merci de m'avoir invitée.
Vous êtes l'auteur de La vraie vie qui a paru chez l'Iconoclaste. C'est votre premier roman. Et la narratrice, précisément, c'est une fillette de 10-11 ans. On la suit quand elle a 11 ans, 10-11 ans au début du livre et puis elle en a 15 à la fin du livre. Elle évolue aussi dans un monde violent. Elle doit se battre pour vivre et pour vivre bien. Vous dites souvent, Aline Dieudonné, que vous avez commencé à écrire ce livre dans une période où vous-même étiez désemparée par les attentats et vous vivez à Bruxelles, hein, faut le dire, et puis vous dédiez ce livre à vos deux filles. C'est vrai que c'est l'ère du temps, tout cet univers de violence qui a inspiré finalement La vraie vie.
Oui, complètement. En tout cas, qui m'a mise à l'écriture, parce que j'ai commencé l'écriture avec un spectacle de théâtre avant La vraie vie, qui s'appelle Bonobo Moussaka. Et effectivement, c'était après il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. C'était aussi le moment où on commençait à beaucoup parler des gens qu'on laisse crever dans la Méditerranée. Toute cette violence m'a saisi. Alors le monde était violent avant ça, évidemment, mais moi ça a été l'heure d'une prise de conscience de mon côté.
Les attentats et MeToo aussi, puisqu'il est question de la violence faite aux femmes dans ce livre, on va y revenir. Est-ce que c'est un sujet qui vous est particulièrement cher? Est-ce que vous êtes féministe? On a tendance à éviter de dire ce mot parce que parfois c'est vu comme un gros mot, mais à l'initié donné.
C'est sûr que j'ai terminé d'écrire La vraie vie en plein hashtag MeToo, balance ton porc. Donc de toute évidence, ça a dû teinter mon écriture. Maintenant, la violence faite aux femmes, c'est vrai que c'est un sujet qui était déjà présent dans le roman avant, puisque j'avais commencé à l'écrire avant. Et oui, bien sûr que ça me touche. Je suis une femme, donc évidemment, ça me touche. Et je sais pas ce que c'est être féministe, mais c'est vrai que je considère qu'il y a encore plein de combats à mener, qu'on n'y est pas du tout encore, et qu'il y a encore énormément de progrès à faire.
Aline Dieudonné, c'est un roman qui est assez angoissant, mais il est aussi très solaire. Et il finit pas si mal que ça, on va dire. Est-ce que vous saviez la fin avant de commencer?
Pas du tout. Pas du tout. C'est rigolo. Il y a deux jours, j'étais dans une librairie et ils m'ont posé une question. Ils ont fait une belle analogie, je trouve. Ils m'ont demandé si, en tant qu'écrivain, j'étais architecte ou jardinière. Et donc l'architecte, il fait son plan avant de commencer, et puis il bâtit sur base de son plan. Et le jardinier, il plante des graines et puis il regarde pousser et il se laisse surprendre par ce qui pousse. Je suis complètement jardinière. je sais pas faire de plan et je crois que ce serait ennuyeux si je faisais un plan parce que ce serait assez prévisible. Alors que moi, j'aime bien me laisser surprendre par l'histoire et me laisser guider par les personnages. Et je me dis, si moi je suis surprise, forcément le lecteur le sera.
La narratrice est une petite fille, je l'ai dit, qui a 10 ans au début du roman. Elle n'a aucun nom, cette narratrice. Ni masculin, ni féminin, ni épicène. Ça règle le problème?
Oui, probablement. Et puis, j'ai beaucoup de mal à nommer les personnages. Il y a d'ailleurs dans le...
Son petit frère, puisque c'était l'histoire aussi d'un petit frère, s'appelle Gilles.
Il s'appelle Gilles. Ça, j'avais pas le choix. Il fallait lui le prénommer parce qu'on en parle tout le temps dans le livre et que je pouvais pas faire autrement. Mais sinon, les autres personnages, il y a le père, la mère, on les nomme jamais. Le champion, la plume. Donc il y a beaucoup de surnoms, il y a beaucoup de... Et je sais pas, j'ai un rapport au prénom qui est un petit peu difficile, un peu ambigu.
Alors vous savez que les prénoms épicènes, c'est le titre du dernier roman d'Amélie Nothomb. Vous savez aussi sans doute, surtout parce que je l'annonçais il y a quelques minutes à Aline Dieudonné, que Radio France fête le livre tout le week-end, aujourd'hui et demain, avec des séances de dédicaces, des masterclass, des lectures, des émissions en direct et des rencontres. Et qu'Amélie Nothomb est l'invitée d'honneur de cette 7e édition. Je l'ai rencontré hier à Ménilmontant en plein préparatif de ce grand week-end et je lui ai demandé ce que ça représentait pour elle, une fête du livre.
Une fête du livre, c'est pour moi bien sûr à la fois une fête mais à la fois beaucoup de pression parce que je sais que je vais être amenée à rencontrer beaucoup de lecteurs et je déteste décevoir, donc je crois que ça se sent quand on me rencontre, j'essaye de donner toujours un maximum à chaque personne, donc même si ça va être un très grand moment d'émotion, surtout c'est un moment pour lequel je me prépare très fort physiquement parce que je sais que je vais en sortir vidée et épuisée.
Qu'est-ce que vous attendez d'une rencontre avec vos lecteurs?
J'attends d'être étonnée et je le suis toujours. C'est fou ce que je trouve que tout le monde est étonnant. Je crois que l'expression qu'on voit le plus sur mon visage pendant toutes ces rencontres, c'est l'étonnement. Étonnement qui peut aller jusqu'à la stupéfaction. Ce n'est pas pour rien que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Stupeur et tremblement ». Je ne fais pas semblant d'être étonnée. Je trouve que c'est fou ce que les gens sont étonnants.
Qu'est-ce que ça suppose d'être la présidente de la Fête du Livre de Radio France, Amélie Nothomb ?
Ça suppose beaucoup de responsabilités. Je sais que je vais être amenée à rencontrer beaucoup de gens, et en particulier des jeunes. Vous savez que c'est un peu une spécialité de ma part, c'est contre toute attente. J'ai un public largement jeune, pas uniquement bien sûr, mais beaucoup d'adolescents me lisent, même quand ce n'est pas obligé par le lycée ou le collège. Bon, à mon avis, la véritable explication, c'est que mes livres sont courts. Donc mes livres ne font pas peur aux adolescents parce qu'ils sont courts. Cela dit, ce sont des livres faussement faciles. Donc je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir que tant de jeunes me lisent si facilement. Ça me fait énormément plaisir. Donc être présidente de cette fête, c'est une grande responsabilité. Il va me falloir convaincre beaucoup de jeunes qu'il faut lire aussi beaucoup d'autres écrivains qu'Amélie Nothomb.
On va faire une petite répétition générale, puisque demain vous allez beaucoup parler notamment de votre dernier roman, Les prénoms épicènes, Amélie Nothomb, j'imagine. Les prénoms épicènes, avec ce livre, vous revenez à un thème qui vous est très cher, c'est-à-dire les rapports familiaux, c'est aussi les familles psychotiques ou dysfonctionnelles. L'avant-dernier portait plutôt sur le personnage d'une mère. Là, on est plutôt centré sur un père. On ne va pas déflorer trop, mais c'est l'histoire d'une fille qui est mal aimée par son père et qui se met à le détester. C'est une violence pour une fille d'être mal aimée par son père, Amélie Nothomb ?
C'est une violence bien particulière, mais qui est très courante. Ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu. J'ai encore de très bons parents, Dieu merci. Mais j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles ou de jeunes femmes ou de femmes qui n'ont pas été aimées par leur père. Et ça donne un profil bien particulier. Ce n'est pas pour rien que ce livre s'appelle « Les prénoms épicènes ». Il s'agit des prénoms mixtes, il s'agit de l'ambiguïté sexuelle. D'une manière générale, les femmes qui ne sont pas aimées par leur père ont beaucoup plus de mal à savoir qu'elles sont des femmes. Il n'y a rien à faire, le premier regard masculin qui se pose sur une petite fille, c'est censé être le regard paternel, et en cas de défaillance paternelle, c'est-à-dire en cas de père qui ne vous aime pas et qui ne vous regarde pas comme un objet qu'on puisse aimer, eh bien la prise de la conscience de la féminité va être rendu presque impossible. On rencontre comme ça des femmes adultes qui disent « mais moi je ne me sens pas une femme parce que mon père ne m'a jamais aimée ».
C'est aussi l'histoire d'une trahison, c'est aussi l'histoire d'une vengeance. Est-ce que ce sont deux thèmes qui sont très littéraires, qui sont vraiment des thèmes littéraires par excellence, on pourrait dire ?
Oui, la vengeance, c'est formidable, parce que la vengeance, comme chacun sait, c'est un plat qui se mange froid. La vengeance immédiate, c'est pas intéressant. Ce qui est formidable dans la vengeance, c'est la préméditation. Et la préméditation, mais qu'est-ce qu'il y a de plus littéraire que la préméditation ? Quand on écrit un livre, on essaie au maximum de faire preuve de préméditation. Donc la vengeance, c'est le thème littéraire par excellence.
Dernière question pour notre invitée du jour, Adeline Dieudonné. Je crois que vous avez lu cette jeune romancière, que vous l'avez aimée, vous vous êtes rencontrée sur plusieurs plateaux de télévision et notamment la grande librairie. Quel conseil donneriez-vous à une jeune romancière dont le premier roman connaît un franc succès pour continuer sans avoir trop de pression ?
Si cette romancière n'était pas Adeline Dieudonné, voilà le conseil que je lui donnerais, de ne pas se laisser impressionner, ni par les compliments, ni par la haine, parce que bien sûr un tel succès chez une jeune femme provoque beaucoup de haine. Mais comme cette jeune femme est Adeline Dieudonné, j'ai pu voir que ses conseils sont parfaitement inutiles. Je l'ai revue à Brive il y a 2 semaines, fraîche comme une rose. Elle n'a pas changé d'un pouce depuis son succès. Elle a tellement les pieds sur terre que je vois qu'Adeline n'a aucun besoin de mes conseils. Elle vit tout avec la plus grande simplicité. Je pense qu'elle va faire une carrière extraordinaire. Je pense qu'elle vit tout ceci avec beaucoup de joie et une extrême simplicité. Alors, excusez-moi de tirer toute la couverture à notre nationalité, mais je suis sûre que le fait qu'Adeline soit belge est pour beaucoup dans le fait qu'elle vive si bien cette belle aventure.
Voilà, Amélie Nothomb, qu'on retrouvera cet après-midi dans l'émission de Christophe Onodibio sur France Culture à 17h. La belgitude, ça permet de prendre les choses avec distance, recul et simplicité. Alors, Adeline Dieudonné,
Je sais pas, elle est extraordinaire. Hein. Elle est vraiment, elle est fabuleuse. Moi, c'est un coup de cœur humain depuis cette rentrée littéraire. Amélie Nothomb. La belgitude, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que moi, ce qui m'aide énormément, c'est que j'habite Bruxelles et que donc déjà géographiquement, je prends du recul quand je rentre chez moi. Ben, je suis à la maison. Si j'étais à Paris tout le temps,
Je pense que je vivrais les choses différemment. C'est vrai qu'il y a une autre pression ici. Donc après, je ne sais pas ce que c'est la belgitude, est-ce qu'on a nos caractéristiques.
Manifestement,
de Belge.
Elle le sait.
Ouais, hein, c'est
identité,
ça. Ouais.
Identité belge. Et pourtant, autour de chez vous, autour de Bruxelles, si j'ai bien compris, Adeline de Dionnet, il y a un décor qui a inspiré les décors de la vraie vie, avec un étang qui s'appelle l'étang des enfants noyés, avec un bois qui s'appelle le bois des pendus. Est-ce que ça veut dire que vous écrivez aussi avec ce qui vous entoure et les peurs qui surgissent de ces décors-là en particulier?
Oui, oui, bien sûr. Évidemment, j'invente pas grand-chose. Hein. J'ai...
Quoique.
Mais bien sûr, là, j'ai plongé dans mes souvenirs d'enfance, le quartier qui s'appelle le Démo dans le livre.
Un quartier pavillonnaire plutôt moche.
Plutôt moche. Il en existe partout, que ce soit en France, en Belgique, partout dans le monde. Mais c'est vrai que moi je vais replonger dans mes souvenirs et les noms de lieux, c'est vrai que c'est très prégnant chez moi. Oui.
Alors on va aussi plonger un petit instant dans votre livre pour entrer dans ce livre. Je vous propose d'en lire le début, si vous le voulez bien, Aline Dieudonné.
Avec plaisir.
La vraie vie.
À la maison, il y avait 4 chambres. La mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres. Des daguets, des sangliers, des cerfs, et puis des têtes d'antilopes, de toutes les sortes et de toutes les tailles. Springbok, impala, gnou, oryx, kobu. Quelques zèbres, amputés du corps. Sur une estrade, un lion entier, les crocs serrés autour du cou d'une petite gazelle. Et dans un coin, il y avait la hyène. Tout empaillée qu'elle était, elle vivait, j'en étais certaine, et elle se délectait de l'effroi qu'elle provoquait dans chaque regard qui rencontrait le sien. Au mur, dans des cadres, mon père posait, fier, son fusil à la main, sur des animaux morts. Il avait toujours la même pose, un pied sur la bête, un poing sur la hanche, et l'autre main qui brandissait l'arme en signe de victoire, ce qui le faisait davantage ressembler à un milicien rebelle shooté à l'adrénaline du génocide qu'à un père de famille. La pièce maîtresse de sa collection, sa plus grande fierté, c'était une défense d'éléphant. Un soir, je l'avais entendu raconter à ma mère que ce qui avait été le plus difficile, ça n'avait pas été de tuer l'éléphant. Non. Tuer la bête était aussi simple que d'abattre une vache dans un couloir de métro. La vraie difficulté avait consisté à entrer en contact avec les braconniers et à échapper à la surveillance des gardes-chasse. Et puis prélever les défenses sur la carcasse encore chaude. C'était une sacrée boucherie. Tout ça lui avait coûté une petite fortune. Je crois que c'est pour ça qu'il était si fier de son trophée. C'était tellement cher de tuer un éléphant qu'il avait dû partager les frais avec un autre type. Ils étaient repartis chacun avec une défense. Moi, j'aimais bien caresser l'ivoire. C'était doux et grand. Mais je devais le faire en cachette de mon père. Il nous interdisait d'entrer dans la chambre des cadavres.
Voilà le début de La vraie vie, Aline de Dionnet, donc l'histoire de cette petite fille et de sa famille. Alors le décor est planté hein, dès le début. Un père chasseur de gros gibier, buveur, qui bat régulièrement sa femme, et puis elle, sa mère, que la petite fille compare à une amibe ou à un ectoplasme. Et puis il y a le petit frère, Gilles, qui est de 4 ans son cadet, et qu'elle aime de tout cœur, qu'elle aime d'un tendre amour. Un drame survient, un accident bouleverse la vie de cette fillette et de son petit frère, et elle veut retrouver le monde d'avant. Elle veut retrouver ce moment où le petit frère souriait encore. Donc elle veut inventer une machine à remonter le temps, elle veut sortir d'un piège qui est en train de se refermer sur elle. C'est ça la vraie vie, se retrouver un temps d'avant qui était un temps plus souriant.
Probablement, oui. En tout cas, se mobiliser à un moment pour sortir de la condition dans laquelle on se trouve. Mais je pense que la tentation de revenir dans le temps, on l'a tous vécu. Et peut-être encore plus aujourd'hui, peut-être que ma génération, on est particulièrement... je sais pas, oui, je vais parler pour moi, je vais pas parler pour ma génération, mais... On a aussi envie de remonter le temps parce que on se rend compte qu'il est qu'il est tard sur les enjeux environnementaux. On aimerait, je pense, pouvoir... Enfin, moi, j'aimerais qu'on puisse revenir dans les années... Début des années 80 ou début des années 90, quand les choses étaient encore... Quand tout était encore possible. Alors qu'aujourd'hui, ça devient compliqué.
C'est aussi un livre sur la peur, précisément.
Bien sûr.
La peur de ce qui peut advenir. Mais c'est un livre aussi sur la prédation.
Absolument.
À l'île de Dieudonné.
Oui, les rapports de prédation qu'on entretient au sein des sociétés humaines, les uns envers les autres, ça me fascine.
Et puis peut-être des humains vers les animaux. Voilà. Il y a une métaphore animale tout au long de votre ouvrage.
Exactement. Mais donc tous les rapports de prédation me fascinent. Et puis le rapport de prédation qui peut exister entre les hommes et les femmes aussi. Et puis, comme vous dites, oui, le rapport de prédation sur le règne animal, la façon dont notre façon de traiter le vivant dans l'absolu, oui. C'est un thème qui me touche énormément, qui me fascine, qui me révolte aussi.
Et ce qui est fascinant dans ce livre, c'est que bon, c'est un côté conte cruel, hein. C'est il y a un côté très très sordide, un peu glauque, mais c'est bourré de fantaisie. Alors peut-être parce que c'est l'imaginaire de la jeune fille, ou que c'est l'énergie absolument dingue de cette petite fille, mais peut-être aussi parce qu'il y a un côté labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, pour l'irruption du fantastique, le seul capable de nous faire fuir l'horreur de la réalité. Oui, évidemment La nuit du chasseur, hein, de Charles Laughton, avec cette scène de chasse à l'enfant en pleine nuit. Mais je crois savoir que vous aimez particulièrement Stephen King. Alors, comme il y a des scènes, Adeline de Dieudonné, de violence dans votre livre, je voudrais vous faire écouter Stephen King parlant de la façon dont on écrit les scènes, dont on décrit ces scènes de violence. Écoutez-le.
The real key to scaring people,
pour parvenir à faire peur aux gens, il faut créer des personnages auxquels les gens sont attachés. Si vous êtes attaché à eux et qu'ils sont mis en danger, vous allez avoir peur pour eux. C'est ce qu'il y a de formidable dans la nature humaine, cette empathie de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de ressentir pour lui.
Adeline de Dieudonné, c'est comme ça aussi que vous avez écrit ces scènes de violence, ou comment vous avez réussi à faire peur aux gens, parce qu'on a un peu peur.
Oui, évidemment, il faut que les gens soient attachés à cette petite fille et qu'ils aient envie qu'elle s'en sorte, c'est évident. Moi, je travaille aussi beaucoup avec le champ lexical, c'est-à-dire que il faut pas grand-chose pour convoquer l'imaginaire des gens. Et finalement, le lecteur fait le travail tout seul. Quelque part, si je dis forêt, ténèbres, marécage, mais il y a tout de suite quelque chose, il y a tout de suite des images qui se forment dans la tête du lecteur, et donc c'est pas très compliqué. Et Stephen King, notamment, je lui pique son champ lexical. Donc je lis du Stephen King et je vais noter des mots parce que je trouve qu'il a ce talent immense de convoquer nos peurs les plus primaires.
Et ce livre, La vraie vie, le vôtre, Adeline Dieudonné, a extrêmement bien marché en cette rentrée. On va y revenir juste après les titres de l'actualité. Il a peut-être aussi bien marché parce que vous arrivez à jongler entre justement le côté thriller, le conte, la fable et la réalité, puisqu'on est quand même ancré dans une réalité.
Mais il y a deux écrivains qui m'inspirent énormément. Donc il y a Stephen King d'un côté pour la partie suspense, puis il a une écriture qui est absolument fabuleuse, et un compatriote qui s'appelle Thomas Gunzig, dont j'aime énormément l'écriture. Et chez lui, il y a cette fantaisie, cet humour noir, cette férocité et vraiment la fantaisie que j'aime aussi parce que du coup ça devient vraiment des histoires. On n'est pas dans le documentaire, il y a quelque chose d'un petit peu fantastique
et qu'on retrouve vraiment dans la vraie vie.
Quand on est passé à table, mon père a demandé à ma mère pourquoi on avait été convoqué à l'école. Parce qu'elle a de bons points en maths, ils veulent lui faire sauter une classe. J'ai pas des bons points, j'ai le maximum. Et c'est en maths et en sciences. Lèche-cul. Ça venait de Gilles. J'essayais d'ignorer ses attaques qui devenaient de plus en plus fréquentes. Je sentais que ça avait un rapport avec mon corps qui changeait. Mais je savais aussi que ce n'était pas mon petit frère qui parlait. C'était la crasse dans sa tête. Et ça ne faisait que renforcer ma détermination. Mon père a émis un rire vide. Puis de sa voix basse, celle qui précédait ses attaques, il a soufflé. C'est très bien ça. On a une intello dans la famille. Il a eu son mouvement bizarre avec sa mâchoire. Ce mouvement qui disait qu'il avait envie de frapper. On a continué à manger l'agneau cru en silence. Mais j'ai compris que désormais, j'étais devenue une proie. Comme ma mère.
Aline Dieudonné, La vraie vie, qui est apparue aux éditions de l'Iconoclaste, c'est le phénomène de l'automne, il faut bien le dire. 150 000 exemplaires vendus depuis fin août, le prix du roman Fnac, le prix Filigrane, le prix Première Plume, et la semaine dernière, le Renaudot d'Ilicien, qui je crois vous fait particulièrement plaisir.
Ben oui, bien sûr, parce que les lycéens, c'est un public, Amélie Nothomb le disait tout à l'heure, c'est un public particulier, c'est extrêmement flatteur d'être lu par ce public-là. Je me dis que si je peux contribuer à leur donner le goût de la lecture, c'est extraordinaire. Donc c'est un prix qui me fait extrêmement, extrêmement plaisir.
Est-ce que c'est pas un peu embarrassant d'être présenté comme un phénomène ?
Non, ça va. Je le vis bien.
Et est-ce que ça vous met pas une pression supplémentaire, ce succès, pour le suivant ? Vous y pensez peut-être pas encore ?
Si, je voudrais me remettre à l'écriture assez rapidement. Là, ça fait deux mois que j'ai pas écrit et je commence à... Et c'est trop long, je commence à me sentir mal. Donc oui, bien sûr, il y aura une attente et il y a une certaine forme de pression. Et en même temps, je sais pas, quand j'écris, je suis dans mon petit monde. Donc j'espère que j'arriverai à m'extraire de ça, à oublier tout ce qui vient de se passer.
Vous êtes soucieuse des critiques déjà ?
Oui, bien sûr qu'on est soucieux des critiques. Enfin, que je suis, évidemment.
Il y en a eu peu des négatifs, mais c'est vrai qu'au milieu des éloges, certains critiques ont reproché au livre son côté fabriqué, par exemple.
Oui, celle-là, pour le coup, elle ne me touche pas parce que c'est rigolo comme critique. Comment est-ce qu'on peut fabriquer un livre
De fait, un livre est fabriqué, cela dit.
Enfin, oui, je ne sais pas, c'est très bizarre. Ou effectivement, comme si ça répondait à un plan marketing que je ne sais pas, on avait fait du benchmarking avant de commencer à écrire, c'est très curieux
c'est l'éternelle question de la recette du succès.
Oui, c'est ça. Si on la possédait, on la reproduirait à l'envers. Oui, c'est ça. Donc non, ça c'est vraiment une critique.
Comment vivez-vous cette entrée sur dans le grand monde, disons, de l'édition, de la librairie, de la littérature, à un moment où c'est de plus en plus difficile pour le livre, et en particulier pour le roman, mais c'est vrai aussi des essais, d'exister.
Oui, je me rends compte que j'ai une chance extraordinaire et je me rends compte qu'il y a des auteurs qui galèrent, il y a des auteurs extrêmement talentueux qui font des livres fabuleux et qui n'en vivent pas. Malheureusement, c'est vrai que c'est un métier dont il est très 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 difficile de vivre, même quand ça marche, même quand on est bien installé sur la place. Donc oui, c'est une chance fabuleuse et voilà, j'essaie de pas trop me poser la question de la légitimité.
Une idée pour le prochain ?
Des envies, mais pas d'idées. De toute façon, j'essaye pas.
Ni plan, ni idée préconçue.
Non.
Vous laissez vraiment porter.
Oui.
Par ce qui vient.
Exactement. Donc une atmosphère, un décor, je plonge et je commence à décrire, à décrire ça, et puis les histoires naissent toutes seules.
Oui, vous allez juste planter les graines, quoi, là, pour l'instant.
Exactement.
Dieu la jardinière.
Je vais semer.
Aline Dieudonné, peut-être que vous allez devoir aussi mettre un peu de musique, parce que je crois que la musique est très importante quand vous écrivez. Mais alors, dans La vraie vie, on entend beaucoup La valse des fleurs de Tchaïkovski. Oui. Mais il se trouve que c'est pas du tout avec La valse des fleurs de Tchaïkovski que vous écrivez. Vous écrivez avec du hard rock, du métal, et particulièrement hurlant. Peut-être que c'est ça qui donne l'énergie, la férocité qu'on retrouve dans La vraie vie. Mais on va peut-être pas, parce qu'il est quand même 7h38, on est samedi matin, mettre du métal hurlant dans les oreilles de nos auditeurs. Vous avez choisi un autre titre, peut-être un peu plus doux quand même. Vous avez dit, je suis dingue de cette chanson, c'est Dominique A, Capfréel. Vous nous en dites juste un petit mot ?
Capfréel, oui.
Capfréel, pardon.
C'est une chanson qui m'a énormément accompagnée au moment des. Je crois que l'album est sorti un peu après les attentats de Charlie Hebdo et cette période où j'ai, J'étais très inquiète et je me sentais terriblement seule. Et à ce moment-là, je bossais dans un bureau d'études d'archi d'intérieur et je m'embêtais un peu. Et je sais pas, cette chanson m'a percutée et elle m'a accompagnée comme une amie. Et je l'aime énormément.
Eh bien, on va écouter quelques notes.
Ont-ils vu seulement que la brume se lève, alors qu'ils vont tous deux l'un à l'autre collés, l'un à l'autre accrochés, comme on s'accroche aux rêves dont on sait en dormant qu'il va nous échapper. La longue baie déserte, cernée par les falaises, s'offre à eux quelques points lumineux, isolés. Brillent dans le lointain et font se diriger.
Merci Adeline Dieudonné.
Merci à vous.
Et félicitations pour ce livre, La vraie vie, qui est apparu chez l'Iconoclaste. Bonne suite à vous.
Merci beaucoup.